Et salut à tous, et bienvenue dans Parlons Ciné, l'émission où on évoque l'actualité et les sorties ciné de la semaine sur Radio Campus. À notre programme ce soir, les actualités de la semaine avec un point sur le box-office où Joker, Folia 2 et Heartless de Tarifaire 3 se sont fait poutrer à leur tour du top 3 de la semaine par Gilles Lelouch avec son amour pas ouf et Smile 2. Puis on parlera des sorties de la semaine avec le biopic de Mehdi Idir et Grand Corps Malade sur Monsieur Aznavour avec Tahar Rahim dans le rôle titre, mais aussi 3 km jusqu'à la fin du monde de Emmanuel Parvou, présenté en compétition au dernier Festival de Cannes. Et comme d'habitude, on terminera avec quelques records brefs par les sorties de la semaine en salle et sur les plateformes de streaming. Bien évidemment, Adam est de retour avec moi pour parler des films de la semaine. Salut Adam.
Bonsoir Gaël, ça va?
Bah ça va bien et toi?
Bah ça va.
Bah
juste avant de...
C'est super. Mais écoute, je suis ravi que ça va.
Non, je voulais pas spoiler mon avis sur les films. Est-ce que tu t'attendais à ce que je dise ça?
Pas du tout, pas du tout. Mais c'est juste qu'il y a toujours ce... Ça me rappelle la bonne époque avec Hugo, à la technique, quand j'étais tout seul avec lui et qu'on disait « Ah, ça va, Hugo ?»« Eh ben, ça va bien avec toi, Gaël ?»« Eh ben, ça va. » Voilà, super.
Voilà. Et puis, mais il faut dire là, que ça va, puis, tu vois.
Bah oui, c'est important de dire que ça va.
Oui.
Parce qu'on vit dans un monde de merde, finalement. Et du coup, dans la vie est dure. Donc du coup, c'est toujours bon de savoir que ça va bien.
Ouais.
Voilà.
Mais c'est toujours un plaisir, ce petit moment où des fois on n'est pas d'accord.
Mais oui.
On n'est souvent pas d'accord. Ou aussi, juste on parle cinéma et voilà, c'est cool.
On est là pour ça.
Évidemment.
On est là durant cette petite heure où nous parlons ciné pour parler de cinéma, bien évidemment.
Évidemment.
Et j'en profite pour dire aussi un petit mot par rapport à Hugo, qui est notre technicien de base. Du coup, vous êtes sûrement rendu compte depuis quelques temps que Hugo n'est plus dans l'émission.
Oui.
Voilà, il a été viré. Non, je plaisante, c'est pas vrai.
Non.
Pas du tout. Non, non, par contre, apparemment, Hugo s'en va. Hugo part vers d'autres cieux. Voilà, donc du coup, il ne sera plus le technicien de cette émission. Mais ça n'empêche pas qu'on l'embrasse, il restera à jamais dans nos cœurs, voilà. On dirait qu'il est mort comme ça, mais il va très bien, je vous rassure. Mais voilà, mais du coup, c'est moi qui gérerai maintenant la technique et le montage de l'émission, vu que je suis un peu plus rodé maintenant, voilà.
C'est vrai.
Mais on remercie tout de même Rémi, il me semble, qui sera à la programmation de cet épisode ce soir, voilà. Donc on le remercie quand même au passage, bien évidemment. Voilà. C'est juste un petit mot pour saluer Hugo au passage quand même, parce qu'il faisait partie de l'émission, il était un membre à part entière, donc je ne me voyais pas ne pas le saluer une dernière fois. Voilà, petit ange parti trop tôt, voilà.
Ouais.
Je pense qu'il écoutera l'émission,
oui.
Et ça paraît, voilà. Mais on l'embrasse, voilà.
Oui.
Et du coup, pour commencer cette émission, et ben un petit point sur le box office s'impose. Bien évidamment, comme chaque semaine, puisqu'on se répète toujours et encore et encore
des chiffres, le pognon.
Le pognon, c'est un état de recommencement, voilà. Avec l'amour pas ouf qui prend...
Il est très fier toujours de cette vanne.
Mais franchement, c'est tellement approprié quand tu fais un mauvais film et que tu appelles l'amour ouf pour dire après que c'est l'amour pas ouf, ça c'est bien quoi. Voilà, c'est pratique, merci Gilles. Qui prend la tête du classement du coup, mine de rien, de la semaine dernière avec un démarrage à 1,108 million d'entrées.
J'avais pas vu les chiffres, du coup tu me dévoiles les chiffres.
Il a fait le million en une semaine sur 631 copies. Voilà.
Ok, d'accord.
C'était un peu attendu, je dirais. C'est un gros film français, c'est un gros budget.
Et je pensais pas à ce point-là.
Ah, il y a quand même une grosse com. Il a été à Cannes en compétition. Il a fait parler de lui.
Il y a un gros casting, surtout.
Il y a un gros casting qui est bien affiché comme il faut. Il y a toutes les affiches avec l'amour ouf partout, avec François Civil, Adex Akopos, qui sont quand même assez populaires. Vous allez au pâté, il y a littéralement quasiment deux salles en simultané qui diffusent le film. Enfin, je veux dire. Non, non, c'était attendu. C'était attendu, je pense, honnêtement. Un million, peut-être pas. J'aurais peut-être pas dit un million, mais quand même un million.
Dit 700 000, moi.
Ouais, dans ces eaux-là, oui, moi 500 000 peut-être, ça a déjà été bien, mais on est content pour lui, hein, 1 million, c'est bien, ça reste un film qui, moi je le redis, propose quand même des images qu'on n'a pas vues dans d'autres films français cette année, donc voilà, donc même si je suis vraiment pas fan du film, mais grand bien lui fasse de faire les entrées, voilà, et du coup, il est pas encore rentable, mais il devait viser les 2 à 3 millions pour être rentable, sur son budget de... je crois que c'est un budget de 35 millions, il me semble.
Ouais.
C'est pas très loin de celui du Comte de Monte Cristo. Je crois que c'est le deuxième film le plus cher au niveau budget cette année, avec le Comte, justement. Donc voilà, premier de la semaine, avec Le Robot Sauvage, qui est juste derrière, en deuxième position, qui réalise un score de 359 427 entrées sur 486 copies, pour un cumul de 754 783 spectateurs au bout de deux semaines, ce qui est... pas mal, mais je trouve quand même que
c'est tiédasse,
c'est beaucoup moins que certains DreamWorks, c'est beaucoup moins que des Pixar, que vice-versa.
Ils sont en pente descente quoi. Donc,
C'est quand même fou, hein. C'est le meilleur film d'animation de l'année et pourtant il y a même pas un million qui a été le voir en une semaine. Voilà. Alors que Vice Versa 2 a fait 8 millions d'entrées et que c'est pas une très bonne.
Disney, c'est plus vendeur. Disney a toujours été plus
vendeur. Oui, non, mais voilà, non, mais c'est un pic certainement mineur, et pourtant, ça tape le milliard, quoi. Mais bon, bref, au box office mondial. Mais bon, on a le monde qu'on mérite, hein, n'est-ce pas ? Voilà, on vit dans une société.
On
vit dans une saucisse, tout à fait. Tandis que Smile 2 clôt le top 3 avec un démarrage à 325 183 entrées sur 358 copies.
Les gens commencent à se faire un peu de frissons avant Halloween.
Oui, et moi, je trouve perso qu'ils ont bien raison d'aller voir Smile 2 puisque c'est une bonne suite au premier. Moi, j'avais plutôt apprécié le premier, je trouvais que c'était plutôt sympathique. Le 2 est plutôt une bonne suite puisque je dis j'en pense, voilà. Le réalisateur a vraiment étendu son concept à la grande échelle, on va dire, un petit peu, avec cette fois, l'héroïne, c'est une pop star. Donc, il y a tout ce truc de le milieu de la pop star. Enfin, le fait que tout le monde l'adore, tout le monde l'aime. Donc, le truc des sourires, je trouve que ça crée une angoisse un peu anxiogène, un peu permanente, un climat anxiogène permanent qui fait qu'on baigne dedans, quoi. Moi, je trouve qu'il y a des moments de flip qui sont quand même sacrément bien troussés. J'ai eu quelques flips devant le film, vraiment. Il y a un plan séquence inaugural qui a de la gueule et qui raconte quelque chose sur l'idée de la contamination de ce smile, justement. Enfin, si vous avez vu le premier film, vous voyez de quoi je parle, mais voilà. Moi, je trouve que c'est une chouette suite qui fait mieux que le premier, honnêtement. Voilà, moi, pour moi, en tout cas. Et je serais même prêt à parier que si on n'a pas aimé le premier, on peut peut-être aimer la suite. Je suis prêt à parler de ça, voilà. Mais en tout cas, ça fait mieux que cette semaine. En tout cas, ça fait mieux que Terrifier 3. Voilà, faut savoir.
Il commence à chute libre.
Oui, mais moi je vais en parler après. Mais oui, tout à fait. Il est en chute libre mais c'est plutôt mérité, j'ai envie de dire. Reléguant donc Lee Miller en quatrième position avec une deuxième semaine à 177 894 entrées sur 481 copies, soit 28,2% de moins par rapport à sa première semaine. Et du coup, le film cumule 425 690 spectateurs au bout de deux semaines. C'est un biopic académique en même temps, donc je pense que tout le monde a fait le tour. Puis voilà quoi.
J'ai pas vu, non.
Oui, voilà, de toute façon, même moi, j'ai pas à dire grand chose dessus. Hein. C'est un film qui passe à côté de son sujet, de toute façon, donc c'est très con. Voilà. En cinquième position, on retrouve la comédie C'est le monde à l'envers, que je n'ai pas vu, qui démarre à 163 431 entrées sur 505 copies devant le film d'animation Croquette, le chat merveilleux. Et c'est Croquette. Voilà. Le chat merveilleux. Et c'est. Moi, j'aime bien les chats, mais.
Croque-carotte.
Ça a l'air d'être vraiment un remake du Chapoté 2, mais on en vient. C'est encore un chat qui a usé ses vies.
Je sais pas, j'entends l'existence de ce film là à l'instant.
J'ai vu ça vraiment, on dirait vraiment que c'est le pitch de départ, c'est le même truc que le Chapoté 2, où t'as quelqu'un qui lui dit ah, mais t'as usé toutes tes vies, tiens, je te donne une chance. Oh là là, c'est vraiment le même truc quasiment. Mec de l'animation moche, voilà. Soyez dignes, n'emmenez pas vos enfants voir ça, s'il vous plaît. En même temps, le film marche pas très bien. Hein. 149 220 entrées sur 474 copies hein, pour sa première semaine, c'est un peu un four. Mais en même temps, qui attendait ce truc? Quand vient l'automne, se retrouve quant à lui en 7ème position avec une 3ème semaine à 136 296 entrées sur 672 copies, dont 208 de plus.
Donc c'est un
four.
Four.
C'est un four, puisque du coup, il a gagné. Je suis content aussi, t'inquiète pas. 208 copies en plus, et pourtant 14,9% de moins.
Ils ont renfoué des copies pour dire.
C'est ça, mais pourtant il fait 14% de moins que ça.
Les gens se sont dit je vais peut-être attendre que ce soit sur France 3.
C'est sa place en même temps, j'ai envie de dire. Voilà. Cumulant 528 241 spectateurs au bout de 3 semaines, tandis qu'au même stade, Joker Folia 2 réalise un score de 122 958 entrées sur 793 copies.
C'est toujours
c'est un énorme
gros bide.
Putain, soit 41% de moins que la semaine dernière pour un cumul de 935.
Vraiment, le film est tombé dans l'oubli.
C'est un enfer. C'est un enfer. Et il est à la porte du million qui devrait être difficilement atteindre au bout d'un mois. Mais pour rappel, il avait fait 5 millions en France le premier et il avait fait 1 million au bout d'une semaine. Donc on est loin. Mais il se fait bouder parce qu'il mérite en même temps. Je veux dire, c'est une sombre merde ce film. Pardon, excusez-moi, mais j'ai toujours pas digéré. Voilà.
Salle de France.
C'est une des pires suites de ces dernières années. C'est totalement mérité. Franchement, sincèrement. Tu peux aller mourir dans les oubliettes, ce truc, vraiment. Et ça en prendra à Warner de faire des suites à des films qui se suffisent. Voilà, passage. Merci, bisous. Voilà.
Bisous.
On vous embrasse, Warner. Voilà. Le Comte de Monte Cristo, quant à lui, a fini par dépasser 9 millions d'entrées. Ça y est, il a réussi. Avec 122 562 spectateurs pour sa 17e semaine. Quoi.
bon, allez, on va pas refaire la vanne.
En plus, c'est lui qui monopolisait ça.
Bon, faut partir. Allez, hop.
Faut y aller, quoi, le Comte. C'est bon, t'as fait ta vengeance, casse-toi, quoi. Genre là.
J'ai l'impression qu'on en parle depuis l'été, quoi. Ça devient gênant, quoi.
Littéralement, c'est quoi en juin, ce truc?
Ouais, ça devient gênant.
Quoi. Genre, les gars, c'est bon, stop, foutez-le en VOD, c'est bon, on arrête. 9 millions, c'est déjà bien. Qui gagne du coup 4% de fréquentation, mine de rien, quand même. Il gagne 4% encore, passant au-dessus de Tarif Fire 3, du coup, en 10e position pour sa deuxième semaine à 116 146 spectateurs sur 272 copies, dont 118 de plus, puisqu'il a gagné en salle. Notamment, le Pâté d'Amiens l'a accueilli à partir de la deuxième semaine, hein, puisqu'ils ont vu que ça cartonnait en France, donc ils se sont dit pourquoi pas.
Il donne pas les sacs à vomi, apparemment.
Non, il n'y a pas les sacs à vomi, comme... alors qu'Aville le fait. Mais le Rex d'Aville, avec Sigon, vous savez, ça a
flairé. Dommage. A dit, donc, ouais, ça me dit. Moi, j'ai pas envie d'aller voir le film du tout.
Après, moi, j'ai vu le film très sincèrement, et je vais en parler très vite fait, mais voilà, mais c'est pas bien. Enfin, c'est moyen, quoi, voilà. Soit 58% de moins que sa première semaine, du coup. 58% de perte, c'est quand même.
Ça y est, le buzz est passé.
C'est bon, c'est ça fou. A buzzé, puis voilà. Et pour un cumul de 300.
C'est un buzz TikTok.
C'est ça. 395 172 spectateurs à ce stade, du coup. Ça veut dire qu'il fait techniquement moins que Smile 2 en une semaine. Donc Smile 2 va le dépasser largement. Et tant mieux, parce que Smile 2 est un. Je le dis, allez, hot take. Smile 2 est un meilleur film que Tarif Fire 3. Voilà, c'est dit. C'est mieux écrit et mieux joué, déjà. Parce que Tarif Fire 3, faut savoir une chose. Moi, je l'ai vu en VF pour le coup, parce qu'il n'y a que des VF au pâté. Mais ça rend le truc un peu hilarant, j'ai envie de dire. Mais voilà. Ça joue mal. De toute façon, dans le 2, je l'avais vu en VO, ça jouait déjà mal. C'est les mêmes acteurs, je ne pense pas qu'ils se soient améliorés. Et voilà, ça joue mal, c'est pas bien écrit. Le scénario est un prétexte d'enchaînement à situation gore et sadique. Le kitsch est bien fait, le gore kitsch est très bien fait. Je veux dire, Damien Leone est un ancien superviseur de prothèses, donc forcément ça passe bien. Mais c'est pas bien, quoi. Enfin, en gros, ça étend sa mythologie pour rien. Ça se prend pour du Freddy Krueger, ça en est pas. Ça commence à se prendre les pinceaux, à se mélanger les pinceaux dans sa mythologie. Enfin, et c'est un opus de transition pour le quatrième en plus, quoi. Parce qu'il veut aller jusqu'à 5, Damien Leone, quand même. Il veut faire 5 films. Alors que ça
grand bien lui en face.
Non, mais son lore tombe déjà en gros au bout de 3 films, tu te dis, mais les gars.
Grand bien lui en face.
Et ça dure 2 heures. Ça dure 2 heures, ça devrait durer 1h20 ce truc. Non, ça dure 2 heures. C'est déjà moins long que le 2 qui faisait 2h20.
Quoi ?
Oui, le deuxième fait 2h20.
Non, mais je m'en fiche de cette saga. Donc
Ah, mais le deuxième sur Tarif Fire 2 qui est sur Shadows fait 2h20. C'est...
Wow,
et il y a littéralement 1 heure de trop. C'est-à-dire que vraiment, moi, Tarif Fire 2, il y avait de quoi cuter, quoi, vraiment. Et pareil, c'était un film qui a intégré une mythologie surnaturelle et tout ça, et qui du coup prenait le temps d'explorer le lore, de caractériser sa final girl, de créer un lien entre son boogeyman et sa final girl, alors qu'il n'y avait pas besoin, parce que du coup ça finit par ressembler à du Halloween Beast, mais dans pas la trilogie Gordon Green, la saga initiale qui s'est perdue dans des suites à foison. Voilà, enfin voilà, bref, c'est pas bien, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire par rapport au box office de la semaine? Parmi les autres sorties de la semaine, du coup, dernière, on peut aussi souligner Miséricorde d'Alain Giraudy, qui réalise un démarrage plus timide, mais à 80 000, 68 entrées sur 175 copies. C'était attendu, mais c'est dommage, c'est un des meilleurs films français de l'année, donc c'est un peu dommage. Voilà, on en pense quoi de ce box-office, Adam? Voilà, c'est dit, merci Adam. Super. Non, mais je sais pas, content des chiffres de l'amour ouf, de l'amour pas ouf, voilà.
Ben, j'aime pas les films, donc je m'en fous.
Voilà, merci.
Voilà, je t'en prie.
Voilà, non, ben,
j'ai rien à
dire sur le box-office.
Non, désolé.
Grave, écoute,
majorité des films, je les ai pas vus en plus.
Bah, en même temps, c'est un box-office un peu tiède, hein, on va pas se mentir.
Ouais, c'est tiède. Voilà. Ça. Bref, l'amour ouf, bah, apparemment, il fait des chiffres de ouf.
Ouais, mais bah, pour un film pas ouf. Voilà, ouais. On va continuer cette blague jusqu'au bout. Hein,
on
voilà.
Arrête cette blague tout de suite.
Non, mais c'est quand même moche que Le Robot Sauvage fasse moins alors que c'est bien mieux. Smile 2,
ouais,
allez, moi je suis content que Smile 2 fasse mieux que Tarif Fire 3 parce que c'est un meilleur film pour moi, mais c'est tout. Mais à part ça, je vois pas ce qu'il y a. Non, et content que quand vient l'automne.
Ouais, voilà, c'est tout en fait.
Se
donc,
plante,
voilà.
Ouais, voilà, et il va finir sur France 3, voilà. Non, c'est bien. C'est...
Ouais.
Et Joker Fight 2 se plante aussi, c'est bien aussi. Voilà, on est content, c'était une plantade, mais d'autres non. Voilà, grosso modo, pour résumer, ce box-office tiédas, voilà.
Ouais, ouais, bien tiédas. Ouais, voilà. Ouais, box-office tiédas.
Très tiédas. Par contre, niveau.
Je pense qu'on devrait inventer un jingle tiédas quand
tiédas,
on a rien à dire.
Box-office tiédas, ouais, on pourrait essayer.
Voilà, c'est tout.
Voilà, ouais, c'est fait, merci.
Ouais.
Voilà, on passe aux sorties de la semaine, mais avant ça, bien évidemment, notre traditionnel petit jingle Matrix. I know you're out there. I can feel you now. I know that you're afraid. You're afraid of us. You're afraid of change. I don't know the future. I didn't come here to tell you how this is going to end. I came here to
tell you how it's going to begin. Campus, 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 campus.
Et on commence évidemment avec la grosse sortie de la semaine financée par Pathé, avec qui nous faisons un partenariat évidemment. Non, c'est pas du tout vrai. Le jour où on fait un partenariat.
C'est quoi tous ces zéros là ?
Je sais pas, mais le jour où on fait un partenariat avec Pathé, franchement, voilà quoi. Mais voilà, en tout cas, c'est la grosse sortie de la semaine. Il s'agit du biopic événement sur Monsieur Aznavour avec Taha Rahim dans le rôle titre. Bande annonce.
Charles Aznavour.
Tu chantes et tu joues au théâtre.
Je t'avoue que je prends tout ce qui peut me rapporter de l'argent.
On va devoir partager le dîner.
Oui, je sais, on va devoir dormir par terre.
Qu'est-ce que tu veux chanter ?
Des chansons d'amour ?
Pour chanter l'amour, faut être beau.
À 18 ans, j'ai quitté ma province. Bien des...
Tu vois qui est là ? Edith Piaf.
T'es comme moi, toi. T'as chanté dans la rue.
Comment que j'ai chanté dans la rue ?
Pour être chanteur, il faut une voix, et ta voix, elle est voilée.
Je vais faire mon propre disque. Ma tête sur la pochette, mon nom au-dessus. Faut qu'on passe à la vitesse supérieure.
Les photos, les chansons...
Un Arménien, ça a la réputation de savoir compter. Aznavour ferait mieux de faire de la comptabilité. C'est pas du racisme, ça ?
Réalisé par Mehdi Idir et Grand Corps Malade, après Patient et La Vie Scolaire, Monsieur Aznavour raconte l'histoire d'un fils de réfugié, petit pauvre, dont on disait que de lui qu'il n'arriverait à rien pour réussir. À force de travail, de persévérance et d'une volonté hors norme, Charles Aznavour est devenu un monument de la chanson.
J'allais dire, du coup, c'est La Vie Charles Aznavour.
Voilà, c'est ça, et un symbole de la culture française, avec près de 1200 titres interprétés dans le monde entier et dans toutes les langues, même le chinois, il a inspiré des générations entières. Découvrez le parcours exceptionnel et intemporel de Monsieur Aznavour, incarné par Taha Rahim. Mais quoi, ça va à l'écran, voilà. Alors, Adam, est-ce que ce synopsis halluciné rend hommage à ce qu'est le biopic sur Monsieur Aznavour ?
J'en ai marre, c'est
synopsis
halluciné. J'en ai marre, j'en ai vraiment.
Je fais exprès, ça me fait rire.
Trop bas. J'en ai marre, ça me saoule.
Bon, j'arrête cette blague.
Sinon.
Oui. Alors, Monsieur Aznavour, moi j'ai vu le film en première. Voilà, j'ai vu le film en première.
En fait, tente de sauver les miches.
C'était une soirée, la fameuse soirée des passionnés qui sont réservées à ceux qui ont.
Ouais, voilà, ils tentent de sauver les miches.
Allez, pâté, voilà. Et disons que j'ai vu le film en mangeant. On nous offre un petit encas, c'est juste avant la séance, un petit sac pâté.
Il est critique des cinémas, je vous rappelle. Fait,
avec une petite salade, très bonne salade de pâtes, très très bonne. Avec une petite.
J'espère que la bouffe elle est bonne.
Ah, elle est vraiment bonne. Franchement, je crois qu'il faut appeler un traiteur, c'est délicieux, vraiment. C'est une petite salade, tu vois, t'as ta petite salade avec ta petite fourchette.
Faudra et puis t'as vraiment.
Avec une petite pina colata, tu vois, juste à côté.
Bon, allez, oh.
Et un petit sachet d'M&M's que je me suis mangé pour toute la séance.
C'est pas ça, va, là.
Voilà, bref. Non, j'arrête la blague. Non, plus sérieusement. Monsieur Aznavour, du coup, moi, j'y allais en me disant, bon, ça va être encore un biopic Wikipédia très académique sur un de nos chanteurs français qui n'est pas encore passé à la moulinette du biopic français, quoi.
Ils vont tous s'y passer, hein.
Oui, mais en fait, t'as l'impression clairement qu'ils attendent qu'ils soient passés littéralement, qu'ils soient morts pour pouvoir adapter.
J'en reparlerai après.
Voilà, mais véritablement. Mais voilà, mais du coup, Aznavour, il passe aussi à son tour, évidemment. Bientôt, je sais pas si ce sera qui, mais voilà.
Johnny Hallyday, c'est
oui,
sûr.
Bah, en plus, dans le film, bon, voilà.
Ah oui, c'est vrai, il y a deux films, Johnny Hallyday en préparation, c'est vrai.
Oui, puis surtout dans le film, il y a littéralement, on dirait, il y a Johnny Hallyday, quoi, qui est joué par un acteur français qu'on a vu dans deux, trois téléfilms, je crois, mais. Mais qui, pour le coup, physiquement, lui ressemble plutôt. Ils ont réussi à me doubler un peu là-dessus. Voilà. Mais voilà, Monsieur Aznavour, que en dire Monsieur Aznavour, moi, je sens quand même un petit respect de la part de Grand Corps Malade et Mehdi Edir. On sent qu'ils veulent adapter un vrai monument de la chanson française et qu'ils veulent être très respectueux, qu'ils veulent raconter sa vie, son combat, le fait que c'est un fils de réfugié, qu'il a vécu littéralement un peu l'oppression quand même durant la Seconde Guerre mondiale avec la Shoah et tout ça, voilà, ses origines arméniennes, le fait qu'il a mené des combats à travers ses chansons, qu'il a défendu l'homosexualité, que voilà.
Oui, c'est vrai, ne l'oublions pas.
Faut pas l'oublier, il a quand même défendu l'homosexualité dans ses chansons. Enfin, c'est quelqu'un qui a quand même. C'est vraiment. Il représente quand même vraiment la culture française dans tout ce qu'elle a
fait. Il a représenté, en fait, une évolution il avait conscience que. Son époque était en train de vieillir et il n'a pas voulu vieillir avec elle en comprenant les générations qui arrivaient.
Et il y a vraiment ce côté dans le film.
Et c'est pour ça d'ailleurs que les générations d'aujourd'hui apprécient Aznavour aussi.
Tout à fait, c'est intemporel, c'est totalement intemporel. Non, je suis d'accord avec ce que tu as dit, non, t'as raison. Et du coup, on sent dans le film qu'il y a cette volonté de vouloir faire un espèce... ils ont voulu faire de ce biopic très académique sur papier et très Wikipédia, et qui est c'est un biopic Wikipédia.
Bah, c'est Wikipédia, faut pas mentir.
C'est clairement un Wikipédia. On coche une à une toutes les cases du biopic standard.
D'ailleurs, on retrace toute sa vie.
C'est c'est totalement ça. Et
c'est même découpé en chapitres, pour vous dire.
Littéralement, merci, tout à fait, oui, c'est vrai. Et en fait, on sent vraiment que Mehdi Edir et Grand Commande ont voulu construire un espèce de rise and fall, du coup, un peu à la Scorsese, en fait. C'est très scorsésien dans l'idée, genre vraiment ce truc de le montage va à 200 à l'heure, il y a des plans séquences. Voilà, à un moment donné, on met même du Dr. Dre pour pimper un peu Aznavour.
Ouais, c'est des films la fameuse chanson qui est inspirée, qui est un sample de Charles Aznavour.
Voilà, mais en fait, dans l'idée, je trouvais que c'était pas une. À l'écran, c'est un truc un peu bizarre, mais l'idée est pas mauvaise dans le sens où je sens que Grand Corps Malade et Mehdi Edir qui viennent un peu du rap et tout quand même du slam et ça tout et ont voulu un peu
c'est
dire
un rappeur,
voilà c'est ça mais ils ont voulu dire vraiment voilà Aznavour pour son époque c'était un peu un rappeur c'était un peu genre pas un rappeur mais un chanteur moderne quoi voilà il était c'est un gangsta quoi vraiment non mais vraiment c'est l'idée et je trouvais que pourquoi pas genre sur papier ok tu me filmes la vie d'Aznavour comme un Rise and Fall à la Scorsese ok pourquoi pas puisqu'en fait pour moi c'est vraiment un truc où dans le film on essaie de te dire voilà il va gravir les échelons, il va monter très haut, et quand il aura atteint le sommet, en fait, il va être seul. Et du coup, moi, le film me surprend dans sa dernière partie, un petit peu, dans le sens où j'ai beau lui reconnaître que c'est un biopic ultra académique, que Taha Rahim fait vraiment une performance à César, qui, pour le coup, je trouve, est assez irréprochable dans le film. Moi, j'ai rien à dire sur Taha Rahim, sur le fait que, oui, il y a du de-aging un peu bizarre visuellement au début. On sent qu'ils ont voulu
c'est un peu
creepy. Ils ont voulu faire un truc mélanger de la prothèse et du numérique pour vraiment coller au visage d'Aznavour numériquement. Quand il est jeune au début, c'est très bizarre. On dirait qu'il a un lifting numérique. Enfin, c'est très chelou. Mais plus il vieillit et plus je trouve que le truc arrive à se mêler à la prothèse. Enfin, ça passe bien, je trouve. Et en fait, à la fin, je trouve que dans la dernière partie, ils arrivent à insuffler une certaine mélancolie au personnage où vraiment, t'as l'impression que malgré qu'il est au sommet, il a tout perdu. Et d'un coup, le film me touche. Dans sa dernière partie, le film me laisse assez froid pendant tout le long où je me dis, ouais, c'est très académique, c'est très Wikipédia, quoi. Et puis d'un coup, dans la dernière partie, il y a une petite note mélancolique qui, je trouve, démérite pas. Voilà. Grosso modo, ce que je peux dire sur le film, c'est que je le défends un peu pour dire, voilà. Au moins, il y a une envie de mise en scène. C'est un peu moins plan-plan, je trouve, que certains. C'est moins plan-plan qu'un Simone Veil d'Olivier Dahan. Pour te faire la passe par rapport à la boum et tout ça.
Ouais. Je vais y revenir dans un instant.
Voilà, voilà. Mais du coup, je te laisse la parole. Vas-y, je t'en prie.
Alors, que dire. J'attendais pas le film.
Oui.
Chaque biopic, je les attends pas.
Non,
je m'en fous.
Non.
C'est-à-dire, c'est un genre que je n'aime pas, mis à part quelques exceptions comme Not There de Todd Haynes, je crois que c'est ça le titre.
Oui, oui.
C'est un des titres de Bob Dylan.
Ouais, bien sûr.
Parce que c'est un vrai parti pris, à part The Doors d'Oliver Stone. Bref, je vais pas faire la liste.
Il y en a quelques-uns quand même.
Même des biopics plus académiques comme Bird de Clint Eastwood, qui est vraiment bien.
Mais là, c'est du classicisme, c'est même.
Oui, mais c'est Clint Eastwood.
Oui, voilà.
Alors. Tu cites Scorsese, bah moi je vais te citer Olivier Dahan. Connaissez-vous La Môme? Oui,
bah oui,
voilà, évidemment, grand succès populaire, film de merde aussi. Vraiment film absolument exécrable. La Môme, c'est l'exemple en fait du biopic mortifère, cadavérique, zombifié.
Ouais.
À un point, en fait, on ressuscite le cadavre.
Ouais.
Et on joue avec, parce que le maquillage de Marion Cotillard, c'était vraiment ça, c'était horrible.
Oui, ouais,
c'est un film que je trouve abject. Je le trouve vraiment abject.
Ouais.
Et le film dialogue avec la môme dans des contre-champs, parce qu'on va beaucoup voir pendant un moment Edith Piaf.
Bah, y a littéralement,
dont sa mort sera éclipsée dans le film, genre on s'en balèque.
Il y a littéralement une actrice du coup qui joue. Edith Piaf dans le film et qui la joue comme
une meuf par PMU.
Ouais, c'est voilà. Ça, c'est vraiment.
Ouais, c'est absolument honteux.
D'accord.
Au moins, Marion Cotillard essayait de jouer un truc. et pas une caricature des guignols ou Muppet Show de Edith Piaf.
J'ai été placé en on. Il l'a fait en off et j'étais mort de rire. Bref, voilà.
Et c'est pareil pour Taha Rahim avec son maquillage, même si ils ont tenté un truc vers la fin où le maquillage vieillit et lui aussi il est vieilli et impacté.
Ouais.
Mais du coup, c'est ça le problème, c'est ce que t'as dit au début.
C'est-à-dire la mélancolie, le truc
Non, c'est que ils sont respectueux. Et non.
Ah oui, ouais,
il
oui,
faut
bah
pas,
ça,
il faut pas. Ouais, le problème, oui. c'est que là, j'ai pas un objet de cinéma devant ma face. C'est que j'ai un une putain de fiche Wikipédia qui enchaîne les chansons. Ah bah, c'est la même structure qu'au Bohemian Rhapsody. En plus, c'est la même.
Ouais.
C'est absolument la même. Oui. C'est absolument honteux. Je retiens quand même la première scène d'introduction, du coup, en Arménie. C'est ça l'Arménie, hein.
Ouais, c'est en Arménie. Oui, c'est ça.
Ouais, c'est le terme qu'on dit. Ouais, ouais, c'est ça. C'est le pays, c'est le nom, c'est l'Arménie.
Oui, il est arménien.
Oui, il est arménien. Non, ça, je savais qu'il était arménien, mais du coup, je sais plus si on disait l'Arménie. Oui, c'est ça,
c'est l'Arménie.
Pardon. Ça arrive des fois d'être en mémoire. Et voilà, j'ai affaire en fait à la môme 2, c'est-à-dire que mais non, mais c'est qu'en fait le film dialogue avec lui en contre-champ. Il y a un contre-champ qui m'a marqué.
Ouais.
Pas dans le bon sens du coup. C'est-à-dire que du coup il regarde Edith Piaf. Et le contre-champ, c'est la fameuse affiche de la môme. Vraiment, c'est le même plan. Okay. L'éclairage, on la voit
De dos.
De dos.
Oui,
ombre,
quand elle monte sur scène avec. Ouais, oui.
Ouais, voilà. On a le même. On a ce contre-champ et c'est le plan iconique de la môme. J'ai fait OK. Donc tu dialogues avec ça. Bah, très bien, c'est ce que tu es. Et je ne vais pas chercher plus que ça. Et du coup, bah, j'ai un film qui est mortifère, qui n'a aucun parti pris. En fait, qui est respectueux, mais du coup, qui n'en fait pas un personnage de cinéma, mais qui fait que maintenir une icône, une légende. Sauf que la môme, en fait, la différence, en plus avec ce contre-champ, c'est un peu ironique et pas dans le bon sens aussi, c'est que Edith Piaf est morte jeune, lui Aznavour est mort vieux. Du coup, le truc est un peu morbide, je trouve. Je sais pas, c'est peut-être moi, mais.
Non, mais
le truc est un peu morbide, c'est-à-dire qu'elle, où elle a pas réussi à réussir à vivre avec ses démons, avec ce qu'il a qualifié de mal, Charles Aznavour a réussi, et même on l'éclipse, l'homme complexe qu'il aurait pu être. On a tous nos idoles, nos stars, nos machins,
oui,
voilà.
Bien sûr, ouais.
J'en ai, on en a tous, malheureusement. Il ne faut pas en avoir, mais on les a quand même, c'est obligé.
C'est normal.
Des artistes qu'on aime beaucoup. J'aime bien les chansons d'Aznavour, mais c'est pas... voilà.
Oui, mais voilà. Tu reconnais leur qualité. Leur...
Oui, évidemment.
Leur côté
mais c'est bon, faut pas... Vraiment, faut rien y connaître en musique pour dire que Charles Aznavour est, ne serait-ce qu'un artiste. Ne pas reconnaître le talent, c'est rien y connaître en art. Désolé, mais
oui,
c'est
bien
tout.
Sûr.
C'est tout, voilà, c'est un fait, c'est un grand artiste.
C'est un monument, pour le coup.
C'est un monument, c'est tout. Basta. Voilà. Mais le problème, c'est que je veux pas une statue Grévin qui dure 2h15, quoi. Je veux un film de cinéma. Et voilà, j'ai affaire à un film que je n'aime pas, qui est moins pire que La Môme, parce que j'ai pas l'impression de voir un cadavre de 2 heures sur grand écran. En fait, c'est atténué par le fait que Raïm a l'air un peu vivant cette fois et pas Marion Cotillard. Donc ça me le rend un peu plus supportable que La Môme. Mais j'aime pas ce genre, donc j'aime pas le film, quoi.
Ouais,
je suis désolé, j'aime pas le film. Les gens ont l'air d'être contents parce que ça applaudit durant ma séance. Tant mieux, ça va être un peu le même succès, mais pas. Ça va pas être aussi important que La Môme, ça c'est sûr. Succès populaire incompréhensible, c'est comme les Bienvenus chez Ch'ti.
Ça correspond à une époque, je pense.
Ouais, c'est une époque.
Pour l'avoir vécu quand j'étais gamin.
Pareil, je l'ai vécu quand j'étais gamin. Ouais. Même mes parents, quand on a eu le DVD et tout, c'était vraiment. Ouais, et tout.
Ouais, il y avait un petit effet Lécoriste.
Ouais.
Tu vois, c'est similaire à ça. C'est ces films français populaires qui, d'un coup.
Ah putain, qu'est-ce qu'ils sont grands, nos artistes.
Voilà, il y a un petit côté comme ça avec Le Comte de Monte Cristo aujourd'hui, quoi. C'est un truc vraiment, un film qui va faire des millions d'entrées pour le coup, vraiment.
Et
des millions.
Putain, c'est ça notre. Finalement, faire toc toc, on a une culture, mais oui, évidemment, Sherlock. Et voilà. Je vais pas dire que c'est exécrable, mais juste, j'aime pas le film, quoi, c'est tout.
Non, mais je comprends.
Voilà. Et ce dialogue avec la môme, moi, qui m'a un peu cringé. Ouais. Et vraiment, j'ai fait. C'est pour dire, Edith Piaf, elle est morte de ses démons. Et Charles Aznavour, ce qu'il a trimé, j'ai fait.
Oui, je vois ce que tu veux dire.
Ouais, c'est chaud. Et avec le montage, avec Scarface.
Ouais.
Bref. C'est un collage de sa vie. Donc, je m'en fous. J'ai pas un objet de cinéma, quoi. Donc, pour moi, ça gère, quoi. Bah, okay, désolé.
Mais t'excuses pas.
Ça gère. Voilà, c'est tout.
Non, mais moi, je dirais juste comme ça pour conclure que. Voilà, je suis peut-être un peu moins dur sur La Môme, j'ai conscience de son côté.
Moi je suis désolé, moi c'est un film vraiment qui me dérange au plus haut point, jamais atteint.
Je comprends.
Parce que pour le coup, par contre, mes parents sont fans d'Edith Piaf, du coup j'ai grandi avec sa musique dans la tête.
Ouais.
Et en fait, j'avais l'impression de voir un cadavre sur grand écran et je l'ai vu très jeune, La Môme.
Ouais, et pourtant ça t'avait pas plu.
J'avais l'impression de voir une morte sur l'écran, quoi. C'était vraiment effrayant.
Ouais.
Moi, ça m'a effrayé, mais pas dans le bon sens du terme.
La momie, quoi.
Ouais, c'était vraiment la momie, quoi.
Ouais, je vois très bien le truc, quoi. Non, non, mais oui.
Ceux qui n'avaient pas de la CGI.
Voilà, mais dans le film, il y a un côté la momie, hein, dans la momie. Hein. Vraiment, hein, c'est vraiment pour la
C'est
la momie,
le but
hein,
voulu,
c'est...
mais en fait, il se complète ouais. dedans et ça m'avait vraiment. Et même aujourd'hui, je l'ai revu plus tard.
Ouais.
Tenté un peu de l'exorciser le bazar.
Ouais, t'arrives toujours pas, quoi. Ouais.
Non, non.
D'accord. Genre, à un moment donné, t'as quand même l'impression qu'on. Enfin, on parle quand même d'Edith Piaf qui est un monument et j'ai l'impression que le film en fait vraiment un déchet sur pattes à l'écran.
Ouais, et ben. Et... On parle pas de la réaction d'Aznavour face à sa mort.
Ouais.
Edith Piaf est morte.
Jeune, genre, 40 ans.
Jeune,
à 40 ans
quoi. Ouais. Mais même, ils ont été proches, on le sait, tout le monde le sait.
Oui.
Pourquoi le film l'aborde pas? Alors
qu'il
trace toute une ligne parallèle sur le fait qu'il a.
Mm-hmm.
Il a voulu monter sa carrière sur le fait qu'ils se sont connus et qu'elle a cru en lui.
Ouais, non, je suis d'accord.
Pourquoi le film n'en parle pas? À part inventer un mensonge dont je tairais le truc, mais apparemment ce serait un mensonge, donc voilà.
Mais je pense que de toute façon, ça, en fait, c'est tout simplement pas le sujet du film, tu vois. Genre, le sujet du film, c'est tellement Aznavour que, bah.
On finit par éclipser ceux qui ont monté sa carrière. Quoi.
Ouais, mais Edith Piaf est une étape dans le film.
Ouais.
Tout comme le personnage
et
de Bastien Bouillon.
C'est vraiment un peu gênant, je trouve.
Ouais, ouais, oui, bah, y a un côté. Il passe dans la grande histoire, donc regardez, la grande histoire, elle est là derrière, quoi. En toile de fond. C'est vraiment, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Voilà, je dirais que je suis un peu plus nuancé.
Oui, évidemment.
Voilà,
mais
c'est tout. Je suis gentil, voilà. Je suis gentil.
Non, mais si j'aime pas le genre,
voilà,
donc
je suis gentil.
Fou,
mais
quoi.
Bon,
En fait, moi, j'aime les biopics, soit quand ils tentent à parti pris en racontant quand même la vie.
Bien sûr.
Soit, tu me racontes un mensonge, en fait. Comme,
oui,
comme Amadeus, ouais. Bref. On fait que les citer à chaque fois, donc
bien sûr,
vous les connaissez, la chanson, bref, allez voir d'autres biopics.
Finalement, est-ce que les meilleurs biopics, c'est pas ceux qui trahissent leur.
Ils parlent d'art.
Voilà,
en fait,
mais qui parlent d'art, trahissent leur artiste, en presque un peu.
Oui.
Quoi. Ouais, non,
parce que ils en font des personnages de cinéma, donc avec leur complexité. Voilà, c'est
mais
tout.
Là, on sent que c'est.
Parce que The Doors, Oliver Stone, n'oublie pas que c'était des putains de drogués de la mort. Quoi.
Évidemment, mais et en plus, c'est.
Et c'était un peu des épaves quand même.
Voilà,
hein,
c'est le mec qui a fait tourner, quoi, tu vois. Donc,
oui.
Bon, ça
oui, mais,
pas, voilà.
Oui, mais
je veux dire,
j'ai un objet de cinéma devant ma porte.
Évidemment.
On aime ou qu'on n'aime pas le style, je m'en fous.
Non, mais même si tu prends Walk the Line de Jazz Mongold, il y a quelque chose sur l'Amérique.
Celui-là est plus académique, mais.
Plus académique, mais il raconte quelque chose quand même sur l'Amérique, tu vois.
Ouais,
un petit peu. Tu vois, voilà. Mais si on prend un exemple académique, mais ouais,
Bird de Clint Eastwood, où il y a son dialogue avec.
Tout à fait, ouais.
Il sait qu'il est d'une autre Amérique, mais il tente de communiquer avec l'autre. Voilà.
Moi j'aime bien Jersey Boys, par exemple, tu vois, de Clint Eastwood.
Arrête,
que je trouve un peu clinquant et tout, mais qui raconte quelque chose sur son sujet, sur l'Amérique de l'époque,
oui, voilà.
Et tout. Enfin, tu vois,
voilà.
Et qui est une comédie musicale en plus.
Mm.
Ce qui est complètement.
Vous voyez Bird, c'est mieux quand même. Vous voyez Bird.
Oui, Bird, c'est mieux, c'est plus majeur dans sa filmo. Mais voilà, mais ouais. Mais en tout cas, vous l'aurez compris, on est mitigé sur
M. Aznavour. Mitigé, t'es gentil, hein.
Je pense
que j'aime pas le film, hein.
Ouais, non, mais voilà. Mais je
c'est pas une merde infâme, voilà.
C'est pas une merde infâme,
mais non, mais c'est pas bien, c'est pas bon, quoi.
Voilà, et moi je vous dirais que voilà, que.
Bon, c'est moyen.
C'est moyen, voilà. Allez vous faire votre propre avis.
Oui.
Voilà, tout simplement.
Je pense que vous allez aimer le film, tant
oui,
mieux.
Et tant mieux s'il fait les entrées, pourquoi pas.
Voilà.
C'est moins pire que d'autres trucs. Enfin, je veux dire, voilà, je préfère que ça fasse les entrées que je sais pas, que L'amour pas ouf, voilà, par exemple. Voilà, à choisir. Voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est en salle. Allez vous faire votre propre avis et payez 15 euros au pâté. non, payez pas 15 euros pour ça, vraiment. Allez-y avec le pass. Passons du coup à l'autre sortie de la semaine un peu plus confidentielle. Il s'agit d'un des films présentés en compétition au dernier festival de Cannes dont on n'a pas tant que ça parlé puisqu'il était plutôt absent du palmarès et c'est pas le truc qui a été le plus cité et pourtant ça démérite franchement pas. Il s'agit de 3 km jusqu'à la fin du monde. Bande annonce.
Adi. Şunu benden kundum en.
Anım kazıdın fatsa kumala bit. Eşne.
Afla mı cin rabat? Bu te întreb că afla niște chestii. La văzut băiețelul Zemțov cum se pupa cu un alt băiat. Dacă se apucă ăștia să toarne în stânga și în dreapta, nu mai ești cu el pe stradă. Toată viața ai făcut ce ai vrut și am avut încredere în tine.
Nu îți dai seama ce o să fie pe aici dacă rămân.
Atunci la mănăstirea la Stimbog vorbesc eu cu Stalin.
présenté en compétition au dernier festival de Cannes. Je rectifie, du coup, il n'est pas reparti totalement bredouille puisqu'il a eu la Queer Palme, mine de rien.
Oui.
Sauf que malheureusement, comme la Palme Dog, eh ben, c'est pas,
ouais, c'est pas officiel lors de la cérémonie de clôture. En fait, c'est en bas de l'affiche.
Voilà.
Voilà, on voit comment on considère le festival de Cannes. Bref.
La communauté queer, tout à fait. Ouais, non, ouais. C'est beau, hein. Queer Palme, Palme Dog au même rang. Oui, c'est bien, c'est bien, c'est top. Bravo, félicitations, le progressisme chez Cannes. Magnifique. Bref. Il fallait que je la fasse, désolé.
T'as raison.
Moi, je trouve que c'est bien de le dire.
T'as raison.
On va pas se taire là-dessus, hein, quand même.
Non, t'as raison. Voilà.
3 km jusqu'à la fin du monde raconte donc l'histoire de Adi, 17 ans, qui passait dans son village natal, niché dans le delta du Danube. Danube ou Danube, je sais pas comment on le dit. Pardon. Un soir, il est violemment agressé dans la rue. Le lendemain, son monde est entièrement bouleversé. Ses parents ne le regardent plus comme avant. Et l'apparente quiétude du village commence à se fissurer. Adam, de quoi ça parle ce film qui n'est pas passé totalement inaperçu en compétition à Cannes malgré son absence officielle, on va dire, au palmarès?
Bah, au palmarès, du coup, 3 km jusqu'à la fin du monde, du coup, film roumain, du coup, sur la société roumaine et qui aborde la question de l'homosexualité et du coup, de la pensée obsolète, du coup, d'une certaine parentalité, d'une certaine. Un certain quota d'habitants en Roumanie, d'une société roumaine, qui est frileux vis-à-vis des questions de l'homosexualité, et pas qu'un peu.
Ah, oui.
C'est un film quand même qui nous a pesé. Du coup, on a tenté un peu vraiment de nous détendre la bosphère, hein, quand même. On a tenté de se détendre un peu le truc parce que. C'est très pesant, les cadres sont très froids, c'est très millimétré.
Très littéral.
C'est vraiment très littéral. C'est-à-dire que, s'il y a quelque chose dans le cadre, c'est que ça raconte quelque chose. Pour moi, un peu ça, une mise en scène littérale. C'est-à-dire que le cadre, on a toujours. On a toujours. Il y a tout. S'il y a quelque chose dans le cadre, c'est que ça sert à quelque chose. Le truc, c'est que ça donne un objet qui est très froid, qui est un peu limité par le fait qu'il raconte un truc A pour aller à un truc B, pour raconter son discours. Voilà. C'est l'école roumaine. Voilà, faut pas se mentir. Oui, c'est comme ça, c'est leur froid, c'est leur mise en scène à eux. C'est une école comme une autre de mise en scène qui est excellente. Scène d'une précision froide. Vraiment, je vous jure, il y a vraiment tous les sujets sont distancés. Quand il parle, c'est-à-dire que le cadre est fixe, et à un moment, il passe dans le cadre comme s'il dévorait le truc. C'est-à-dire que souvent, ça va pas être. L'ado, des fois, va être devant le cadre, mais souvent, ce sont les personnes qui sont contre Adi qui dévorent le cadre.
C'est ça.
Ils vont être même devant lui à un moment. Il y a un passage qui m'a marqué où c'est lui qui est devant une femme qui gère l'enfance civile, et tu m'as dit oui. C'est le patriarcat qui dévore truc.
Voilà, oui, il y a aussi à un moment donné avec un miroir, il y a un plan dans sa chambre avec un miroir où il apparaît dans le miroir et t'as la mère qui est à la porte, en fait. Donc en fait, il crée un contre-champ avec le miroir dans le plan.
Ouais.
Et en fait, c'est un moment où.
C'est elle bouche la porte, c'est-à-dire que lui, il ne peut pas sortir, il n'est pas libre. Et lui, en fait, sa liberté n'est qu'à travers le miroir. Du coup, il est de l'autre côté.
Alors, moi, il y a ça, mais moi, c'était plus le fait que, en fait, il est sur le point de se déshabiller, d'enlever sa chemise.
Ah oui, c'est ça.
Le truc, c'est que, du coup, il s'est fait tabasser et il a des coups.
Ah, les dégâts sont violents. La scène est vraiment glaçante.
Ouais. Et en fait, en gros, t'as vraiment la mère qui est à la porte et il commence à déboutonner sa chemise et en fait, on voit qu'il se retourne vers sa mère, donc on le voit dans le miroir. Et en fait, du coup, on comprend juste avec un regard que la mère n'a plus accès à cette intimité suite à ce qu'elle a fait justement quelques scènes avant. On va pas trop en dévoiler pour que vous gardiez on va dire un peu l'impact pour vous, mais voilà, mais en gros suite à un geste qu'elle a pu avoir envers son fils, il n'accepte plus qu'il la voit comme son fils entre guillemets, donc dans son intimité et tout ça, et du coup il la regarde et juste en un regard elle ferme la porte et du coup on comprend que voilà, elle n'a plus accès à cette intimité. Et voilà, juste en un plan, avec un miroir, Emmanuel Parvoux fait preuve d'un sens du cadre qui est très franchement d'une maîtrise totale. Hein. Vraiment, c'est vraiment, comme tu as dit, c'est extrême, pour pas trop paraphraser, c'est extrêmement cadré, c'est très littéral dans la mise en scène.
C'est une mise en scène ultra symétrique, très cadrée, très. C'est des plans fixes.
C'est très propre.
C'est très propre.
Pour le coup.
C'est propre dans le sens. En fait, c'est vraiment une mise en scène qui est très, très symétrique, pour le coup. Et en fait, c'est le sens précision, les personnages sont placés comme il le veut dans le cadre, et pourtant, il les laisse déambuler, mais pour une raison très précise, et c'est-à-dire que, en fait, le film ne dépasse jamais son sujet, mais en même temps, en fait, c'est une espèce d'école de cinéma, ça fait partie de ces écoles de cinéma qui sont très froids avec leur sujet, qui les racontent de manière extrêmement... avec une émotion qui n'est pas surjouée, qui n'est pas... Des fois, on ne va pas appuyer sur le drame, c'est-à-dire que le film n'a pas de musique. Il n'y en a pas, par exemple. On ne va pas appuyer les scènes de drame. On va pas. Il y a une scène où il dévoile du coup à sa mère qu'il est homosexuel.
Oui.
Et en fait, c'est vraiment une mise en scène très froide. Ils se regardent l'un à l'autre, vraiment le cadre séparé. Lui est là, elle est là. Et vraiment, à un moment, juste ils essayent de s'attraper la main, mais ils ne peuvent pas non plus. Et ça en donne un film qui, malheureusement, en fait, vu qu'il dépasse pas son sujet, en fait, sa mise en scène ne déborde pas de ce qu'il veut raconter, ça en donne un film qui est un peu limité quand même.
Qui est très figé dans ses émotions.
Qui est très figé dans le truc. C'est-à-dire que la mise en scène ne va pas... je dis pas aller au-delà du sujet, mais... d'un truc, en fait, que... En fait, on sent qu'il déborde pas
ce
truc et qu'il laisse pas peut-être une violence ou alors un moment de calme. Bref. Du coup, c'est très propre. C'est parfaitement construit, en fait. En fait, c'est pour moi le film qui a dû avoir le prix du scénario à Cannes.
Oui.
Parce que le film est parfaitement limité.
Oui,
ça s'arrête là où ça doit s'arrêter. C'est vraiment parfait.
Mmh.
C'est vraiment... c'est le genre de film que j'appelle, en fait, c'est les films parfaitement écrits.
Ouais.
C'est parfaitement raconté.
Oui, la structure narrative
idéal.
Est parfaite.
Ouais.
Et même son sens
de la... précision remarquable.
Mais même son sens de la mise en scène, il est super,
ouais.
Il n'y a pas à dire. Mais en effet, c'est très figé.
Ouais.
Et du coup, émotionnellement, on est vraiment à distance. Et c'est marrant parce que du coup, en off, je te disais aussi, j'ai comparé ça à un film que j'ai rattrapé récemment qui est À son image de Thierry de Peretti, qu'on n'a pas chroniqué dans l'émission parce qu'on n'avait pas eu le temps de le voir au moment de la sortie. Mais je l'ai rattrapé récemment. Et comme souvent dans le cinéma de Thierry de Peretti, que je trouve d'une grande qualité formelle, que je trouve extrêmement bien écrit, extrêmement bien monté, je sais plus si c'est lui qui monte ses films, mais c'est extrêmement bien monté. C'était le cas de Enquête sur un scandale d'État.
Oui, c'était parfaitement monté.
Voilà. Et À son image, je l'ai tout autant. Mais pareil, je suis à distance. C'est-à-dire que ce sont des cadres très composés où vraiment j'ai l'impression que dans le cadre il y a de la vie, mais il y a pas d'émotion.
Dans 3 km jusqu'à la fin du monde, c'est-à-dire qu'en fait quand il y a des scènes où il déambule, c'est vraiment la caméra est à 3 km quasiment.
Oui, c'est ça.
D'où la distance avec le sujet. On est à 3 km du sujet.
C'est ça, mais on est tout le temps à distance. Et du coup, comme chez De Peretti par exemple, je trouve que j'ai du mal à ressentir de l'émotion dans le film. C'est-à-dire que malgré...
On a été terrifiés
On est glacé par ce qui arrive à ce pauvre jeune homme. Et ça nous rappelle aussi au passage que, mine de rien, malgré qu'on a beau... on peut critiquer la France pour beaucoup de choses, mais ça nous rappelle, ça nous fait relativiser sur le fait qu'au moins ici en France... Il n'y a pas.
On a été un des premiers pays à avoir.
Dépénalisé.
D'avoir légalisé le mariage. Et
voilà.
La dépénalisation, du coup, en Roumanie de l'homosexualité, c'est 1996. Voilà.
Voilà.
Je tiens à le rappeler.
Voilà. Donc c'est très récent.
C'est très récent. Et même, en fait, juste avant les années 2000, c'est chaud. C'est très, très chaud.
Et là, on voit aussi dans le film que ça parle aussi du communitarisme.
Ouais. De la transmission, de l'idée qui est un peu un poison et qui se transmet.
C'est ça, l'homophobie ordinaire.
Ouais,
il y a une homophobie ordinaire qui est propre.
D'un mot, en fait, les mots, les paroles. En fait, parce que son agression n'est pas montrée, c'est les paroles. C'est les paroles
c'est
et les actes après qui vont être montrés.
C'est ça.
C'est d'une froideur...
Mais c'est assez impressionnant comment il te montre la mécanique un peu implacable d'un village qui fonctionne presque comme sur un réseau
de mafia. Et d'ailleurs,
il
se transmet des choses.
Oui, il se transmet
des choses. Un café, un plateau de fruits.
Oui, c'est ça.
Je trouve ça, ouais. Je vous l'ai dit, ça déborde pas de son sujet.
C'est
vraiment,
ça.
C'est un truc dans le cadre, c'est ça, quelque chose.
C'est un réseau de mafia. C'est-à-dire que vraiment, la manière avec laquelle, comme tu dis... les flics sont quasiment corrompus par le fait qu'ils acceptent de bouffer
et
de manger
ironiquement
une salade,
le film va dire ce pays est corrompu et va mal.
Oui, littéralement le film le dit ouvertement, mais le film c'est ce qu'il dénonce de toute façon, voilà.
Ouais.
Mais on dénonce
d'une manière ironique parce que c'est le flic qui le dit. Voilà.
Oui, c'est ça. Mais on dénonce aussi un communautarisme gangréné par la religion, enfin je dirais avec le personnage du prêtre qui est assez terrifiant, qui en impose. Pour la blague, je disais, oui, c'est le prêtre dans Resident Evil 4, mais c'était vraiment pour la blague, pour dire...
Bah, Stan Cabran.
C'est-à-dire qu'en gros, le village, on dirait vraiment, il est tellement froid et flippant qu'on dirait un peu celui de Resident Evil 4, tu vois, genre, vraiment les Roumains...
Et même d'ailleurs, en fait, il y a toujours l'omniprésence de la religion, parce que dans la maison d'Adi, il y a beaucoup de cadres...
Qui mettent en parallèle à la fois les...
Et en plus, ils sont près des portes.
Oui, des symboles religieux, ouais. Avec notamment le fait que dans sa chambre, il y a d'un côté, il y a une composition de cadre qui est très infernale où il est au milieu du cadre, et d'un côté, tu as une Vierge Marie, je crois, ouais. Sur un tableau ou quelque chose dans sa chambre, et de l'autre côté, t'as une photo de YouTube. Voilà.
Ouais.
Moi, j'aime bien YouTube, toi, t'aimes pas YouTube.
Non, mais c'est pas un sujet, mais
pour rigoler.
En fait, mais c'est important aussi parce que U2 est quand même un groupe qui a beaucoup revendiqué des choses.
Bah voilà, c'est ça en fait.
Et en fait, c'est pour lui la liberté. Mais en fait, un groupe qui évoque pour lui, qui peut peut-être l'apaiser,
ouais.
C'est U2 et c'est l'extérieur. En fait, même quand il n'y a pas la porte, on ne voit pas de porte, il raconte l'intérieur et l'extérieur. Ouais. Vraiment, je vous le dis, c'est toujours un film qui oppose l'intérieur et l'extérieur.
Ouais, mais c'est très littéral.
Mais en fait, on filme toujours cette porte en fait qui mène au jardin en plus. Tu sais, où il y a la table,
oui,
et tout.
On filme toujours
cette porte-là, revient très régulièrement dans le film. C'est
l'eau, la barque aussi, fait que c'est le seul horizon quasiment par lequel il peut s'échapper.
Ouais.
Enfin, voilà, et s'il va s'échapper ou pas, ça on va pas vous le dire, mais voilà. Mais moi, à la fin, vraiment, dans la dernière partie, presque, pour moi, ça devient presque un survival.
Ouais.
Mais genre vraiment, hein, c'est-à-dire que sans tomber non plus dans le genre à fond, mais c'est-à-dire que voilà, c'est tellement oppressant qu'on est presque inquiet pour la survie de ce personnage, quoi, véritablement.
Ouais.
Mais voilà, en tout cas, moi, pour ma part, et je pense que c'est ton cas aussi,
oui.
Ma principale limite, c'est que c'est un peu figé émotionnellement, mais sinon, ça reste un.
C'est d'une précision remarquable.
Implacable dans sa mise en scène et dans son écriture, et qui dépeint l'homophobie ordinaire comme.
Un vrai truc très communautariste et qui se transmet quasiment comme une mafia, quoi. C'est assez gênant.
Qui contamine presque un peu. Et j'ai pas vu récemment un film qui dépeint aussi bien ce sujet-là. C'est vraiment, vraiment,
récemment. C'est une froideur. C'est vraiment d'une précision remarquable.
C'est remarquable, voilà.
Donc, et on sait que c'est un sujet qui est assez grave là-bas et même dans d'autres pays.
Dans d'autres pays.
C'est très, très grave.
Allez checker sur Google la liste des pays où
l'homosexualité est encore interdit. Ouais.
C'est chaud.
C'est très effrayant. Vous avez une page Wikipédia qui récapitule tous les pays exactement et c'est chaud.
Voilà.
Très, très chaud.
C'est ça.
Donc voilà, c'est notre reco de la semaine.
Largement.
Vous n'avez pas passé un très bon moment.
C'est un peu dur.
C'est dur. Il ne faut pas se mentir. Ouais.
Mais c'est au cinéma Orson Welles.
Allez, je vais la dire cette phrase. C'est un film nécessaire. Allez, hop.
Oui, mais c'est vrai.
À un moment, il faut le dire.
J'aime pas cette phrase non plus, mais c'est un film nécessaire. Ouais. Pour le coup, c'est qu'à le dire.
Qui aurait mérité que sa queer pam soit affichée déjà.
Déjà.
Et deuxièmement, s'il vous plaît, festival où elle les affiche, faites un effort. Mettez. Ou même juste l'annoncer pendant la semaine de culture, s'il vous plaît. Faites un effort.
Ouais, mais en avant,
et deuxièmement, vous auriez dû lui donner le prix du scénario. Voilà.
C'est un film qui aurait dû figurer au palmarès.
Ouais.
Clairement. Avec le recul, je pense que.
Non, prix du scénario. Pour moi, c'est vraiment le prix du scénario. Vraiment, c'est implacable. Bout en bout. Voilà.
Mais en tout cas, c'est au cinéma Orson Welles, dont on ne parle pas assez. On parle beaucoup de Saint-Leu, mais le cinéma Orson Welles est là aussi et propose une très belle programmation. Donc allez-y. Là, vous avez 3 km jusqu'à la fin du monde au cinéma Orson Welles. Et vous avez aussi, pour rappel, l'histoire de Suleiman qui est au cinéma Saint-Leu toujours.
Oui.
Et qui est très bien.
Et aussi la rétrospective Chantal Akerman qui est au Orson Welles. Voilà, on en profite. Voilà.
Tu fais ta reco au passage. Voilà. Bon, même s'il y a d'autres recos qu'on peut faire cette semaine. Voilà, parmi les sorties de la semaine, un truc un peu plus fun qui a détendu un peu l'atmosphère au moins après ce film-là, tu vois, pour les
enchaîner. Vraiment, on était vraiment assez c'était pas la joie.
Du coup, après on a été se faire Transformers le commencement.
One.
Voilà, Transformers One.
The One,
l'élu en VO, vous avez compris. Puisqu'il reprend littéralement la structure narrative d'un Star Wars, hein, puisque voilà, Hasbro veut nous faire croire avec ce film d'animation préquel que Transformers peut rivaliser avec Star Wars en termes de mythologie. C'est faux. Voilà.
Raconte la CGT.
Vas-y, fais ta blague. Vas-y, fais-la.
Alors, je savais pas que Transformers c'était une saga qui racontait le prolétaire sur une saga de figurines de jouets destinées à vendre des trucs aux mioches. Hein, mais voilà. Bref,
cette blague. Non mais c'est génial. Non mais j'ai vu des critiques dire c'est
un film politique, c'est un film sur la prolétaire. D'accord. Donc ça c'est du Ken Loach. OK, très bien.
Bien sûr. Oui. On embrasse Teddy au passage, voilà. Teddy Devim.
Pardon Teddy, je suis désolé. Non, pardonne-moi.
Il va nous en vouloir. Ça se veut prolétaire.
Franchement, les dialogues quand même se font du la porte parce que c'est vraiment quelque chose.
En gros, on nous raconte un préquel où c'est censé nous raconter comment ils sont devenus les Autobots et les Decepticons. Il y a une phrase dans le film à un moment donné qui nous dit pourquoi ils s'appellent les Decepticons.
Ils ont été déçus.
Ils ont été déçus, donc ils deviennent les Decepticons. C'est vraiment, vraiment dans le film, je vous assure, c'est pas une blague.
Mais c'est applaudi par la majorité des gens. Pourquoi ouais. on est passé à côté? On était trop cynique, je sais pas.
Peut-être, ou alors parce que on lui reconnaît une qualité technique qui est un peu là, on va pas se mentir.
Oui,
que,
sauf
oui,
les visages, en dehors des visages.
Oui, voilà.
En dehors des visages, les textures, les trucs, c'est impeccable.
Je suis beaucoup plus
parce que contrairement aux bandes annonces, c'est un peu effrayant l'animation.
C'est clair.
Là, c'est juste les visages, sinon les textures. Parfait.
Je suis plus convaincu, moi perso, par l'anthropomorphisme des visages chez Michael Bay.
Ouais.
Tu vois, avec les CGI. Là où
même les transformations chez Bay étaient meilleures pour moi. C'était plus organique. Tu sentais la matière métal qui se mélangeait pour devenir le truc. Là, les transformations, j'ai pas une demi-molle, quoi. Excusez-moi.
Non, mais c'est clairement pas le cas. Hein, voilà. Et. À part
le climax, qui peut être un peu jouissant parce qu'il tente des trucs. À un moment où t'as le personnage féminin de la transformeur féminine.
Qui est doublé par Scarlett Johansson, ouais.
Ouais, qui est le quota MeToo. Et
littéralement dans la
question, c'est vraiment le quota MeToo, ils font des phrases en mode ouais mais je suis plus intelligent que toi et plus fort que toi.
Ouais. Surtout qu'en plus c'est une mec
vraiment on est vraiment du niveau de dialogue,
voilà.
C'est vraiment dialogue fonction, il y a un personnage qui dit je dois aller mourir.
C'est ça.
Vraiment, littéralement.
Mais les films de Michael Bay, la réputation est un peu...
Ils sont mal écrits.
Mais au moins, ils assument un côté standard, de casser ses jouets, qui est beaucoup plus jouissif que ça. Quoi. Là, on est vraiment sur un truc qui se prend trop au sérieux, qui veut...
Mais en même temps, il y a beaucoup de vannes.
Ouais, mais qui veut jongler entre un humour cartoonesque et en même temps... et des gags cartoonesques littéralement, tu vois. Et en même temps, de l'autre côté, un premier degré, comme s'il voulait nous faire croire qu'il pouvait faire la revanche des Sith avec...
tragédie grecque, quoi.
Ouais, et bah, les gars, non, ça marche pas, désolé.
On dirait Hamlet mélangé à je sais pas quoi, ça marche pas du
surtout
tout.
Que on va pas spoiler, excusez-moi, mais la transformation de Megatron en méchant, elle arrive comme un cheveu sur la soupe. Au début, c'est un buddy movie entre Chris Hemsworth et Thierry Henry. Voilà, ils sont des tchèques, quoi. Puis à la fin, c'est vraiment on n'a pas la même façon de voir les choses, donc je deviens méchant et Megatron d'un coup il a des yeux rouges et puis qu'est-ce que c'est
les scènes clichés, mais waouh, c'est gênant.
Voilà, bon, vous l'avez compris, c'est... Allez, vous savez quoi, moi j'ai joué la carte. Je vais dire que pour moi
vas-y, je suis d'accord à la limite.
Pour moi, c'est une reco, semi-reco, on va dire.
Pour les enfants,
voilà, c'est un peu un film d'action pour enfants. Emmenez voir vos enfants le voir, même si moi je suis.
Et ils vous demanderont d'acheter des Transformers, je vous le dis tout de suite.
Voilà, mais moi je suis même persuadé que c'est plus un film fait pour les trentenaires.
Fans de Transformers
et de la saga et de la série d'animation de l'époque.
Dédicace à la personne qui était à côté de moi et qui avait l'air de kiffer son moment.
Ah oui, non, mais.
On a un peu gâché parce qu'on rigolait
comme des baleines, voilà, parce qu'on a vraiment ri pendant le film, quoi. Mais je veux dire, peut-être que les trentenaires vont l'adorer parce qu'ils sont fans de la licence.
Peut-être que nous on n'est pas assez fans de Transformers pour ça.
Voilà, peut-être que nous on passe à côté. Et peut-être que les enfants vont aimer pour la pyrotechnie visuelle du film, même si je la trouve un peu agressive, honnêtement.
Un peu tiède, des moments aussi. En fait, c'est tiède et en même temps, c'est trop clippé, en fait.
C'est bizarre. Mais voilà, moi je vais te dire que.
C'est un film un peu schizophrène, quoi.
Oui, un peu, clairement, mais c'est clairement ça. Il sait pas trop où il va, je pense, ce film. Mais voilà, certains disent qu'apparemment c'est le meilleur film Transformers. Moi, personnellement, je m'amuse beaucoup plus devant les Michael Bay, mais bon, c'est voilà.
Bubblebee était mieux.
Et Bubblebee.
Bubblebee était un vrai film Spielbergien, E.T.
Totalement, voilà, c'est une production en blind pour moi, vraiment.
Oui, c'est pas un grand film,
Bubblebee,
c'est bien. Voilà, je le dis.
C'est peut-être le meilleur film de Transformers de Bubblebee. Hein.
Oui.
Ouais, voilà, largement. Et voilà, donc on le.
C'est réalisé par Travis Knight, en plus, je crois. Qui a fait l'armure de Kubo, je crois.
Oui, c'est vrai, en plus, il vient de l'animation. Oui, tout à fait.
Les deux viennent. Qui est réalisé par Josh Cooler, qui fait un film d'animation. Là, du coup, c'est un film d'animation, bref.
Du coup, c'est Josh Cooler qui a fait Toy Story 4.
Ouais.
C'était pour ça que techniquement, c'est plutôt abouti, on va dire, voilà, mais voilà.
Et voyez Bubblebee, c'est mieux.
Ouais, voilà. Non, on va dire c'est une semi-reco pour vos enfants, voilà.
Ouais, voilà, allez-y.
Voilà. Et puis en déreco total, là, on a dépassé niveau timing, mais allons-y. Déreco total pour.
The Killer.
The Killer, remake du film culte de John Woo par John Woo, mais qui transpose son film à Paris. Avec Nathalie Emmanuel et Omar Sy en duo de buddy movie auquel on croit pas du tout, et Sam Worthington en irlandais qui passe tout le film à appeler Nathalie Emmanuel.
C'est lui qui fait le truc à ma place parce que vraiment
comment il dit en irlandais, je saurais pas le dire. My crush,
bref,
voilà, un surnom irlandais.
Tu es mon battement de cœur, c'est ça qu'il dit. Bref,
oui, voilà, en fait, passe tout le film à dire ça en irlandais et c'est chiant. Le personnage est ridicule.
Bref, non, mais en fait, le The Killer d'origine de John Woo, déjà voyez-le, premièrement, une.
Oui. Oui.
J'en profite pour faire la roco.
Bien sûr.
En fait, John Woo est ce genre de cinéaste en fait qui a vie. Juste, il est vieux. Apparemment, il se serait endormi durant le tournage des fois.
Je pense. Oui.
Apparemment,
pense,
il se serait endormi pendant le tournage. Donc, ça explique beaucoup de choses. Ouais. Apparemment. Ouais, apparemment.
Super. Génial.
Comment dire? Tout est raté. C'est-à-dire qu'à un moment, en fait, on frôle le nanar. Et en fait, j'ai rigolé, mais J'étais triste, vraiment sincèrement triste, premier
ouais,
degré.
Ouais, je sais, ouais.
Ça s'est vu à mon visage, ouais, je suis décomposé. J'ai eu le même visage que toi pendant Joker 2, mais vraiment, je te jure, j'étais dépité parce que, en fait, il n'y a rien qui va. Le lyricisme ne marche plus, le côté religieux ne marche plus. C'est-à-dire que. Comment vous expliquer le truc c'est-à-dire que les effets de mise en scène, les gimmicks, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien. John Woo n'est plus intéressé. En fait, juste, en fait, il a été. En fait, c'est le stade supérieur de Tim Burton. C'est-à-dire qu'il est totalement bouffé et les films n'ont plus de gueule. Vraiment, ça pue rien.
Oui,
c'est un téléfilm peacock de merde qui frôle les dialogues à n'importe quoi.
Ah,
à la fois, un côté, c'est trop sérieux et de l'autre, c'est des dialogues genre en mode, il y a un méchant qui s'appelle Coco. Quoi.
Coco.
Genre vraiment, on est à un stade, c'est n'importe quoi.
Les Français parlent anglais entre eux.
Oui, c'est
ça. C'est n'importe quoi.
En fait, c'est un peu bizarre parce que. En fait, il tente en fait de se donner un style de Palma et en même temps singer son propre style,
une
espèce de parodie en fait. Là où Volteface avait réussi, il a assez raté. Bref, c'est de la merde quoi. Je suis désolé, c'est vraiment merde. Voilà, quoi.
C'est
raté.
Bien,
de toute façon, il y a pas beaucoup de séances, donc il va pas rester longtemps.
Il bide.
Pas.
Il bide.
Il bide. Bah, tant mieux. Allez hop. Comme ça, John Woo comprendra qu'il faut qu'il arrête.
Ouais.
Et à part que peut-être qu'il doit manger, le pauvre. Ça me fait mal, vraiment, ça me fait mal, premier degré, j'ai très très mal.
Ça fait mal pour un grand cinéaste comme ça.
Un grand cinéaste comme ça, vous voyez l'original, et on espère.
Voilà.
Et par contre, de toute façon, ça ne sera pas écouté, mais je m'en fous. Rééditer ces films hongkongais, s'il vous plaît, parce qu'ils ne sont plus disponibles en France, donc voilà,
oui,
je lance une alerte.
Ils sont peu vus, et voilà.
Ouais, il faut les rééditer, voilà. S'il vous plaît. Merci.
Non, parce que même moi, j'assume, hein, j'avoue que j'ai vu principalement sa période américaine avec Mission Impossible 2 et Volteface.
Qui était meilleur parodie de son propre style que The Killer.
Totalement. Et Volteface, qui est super.
Oui.
Où tout
c'est un burlesque, mais qui marche, Apollo.
Alors que tout ce qui est dedans pourrait être complètement.
Ah oui, en fait, j'avais dit en sortant, par exemple, qu'en fait, on parlait de Volteface et je disais, en fait, si ça n'avait pas été réalisé par John Woo, ça aurait été raté.
Quoi.
Ça aurait
et
été
pourtant,
raté.
C'est réussi parce que c'est John Woo, quoi.
Ouais.
Voilà.
Et là, il n'y arrive plus.
Bah là,
c'est passé.
Là, il rate tout. Et c'est...
C'était gênant, quoi.
C'est gênant, voilà. Et Omar Sy est gênant, tout est gênant. Enfin, voilà, bref, je ne saurais pas quoi dire de plus. De toute façon, voilà, moi, j'ai juste.
Ouais. Moi, j'étais triste.
Je comprends, mais on a quand même bien rigolé, tu vois.
Ouais, mais j'étais triste quand même,
je comprends.
Pas mentir.
Mais j'ai envie de dire, tous les grands cinéastes sont un peu un jour dans leur carrière, on va dire, un
oui,
peu leur nanar.
Ça n'empêche pas d'être triste.
Oui,
ça n'empêche pas.
Bien sûr, non, mais je sais. Mais ils font un peu tous leur nanar. Et voilà, et John Woo. Sauf Scorsese, c'est vrai, sauf Spielberg, sauf les très très grands cinéastes. Voilà.
1941.
J'ai pas vu. C'est un des Spielberg que j'ai pas vu.
Ouais, c'est un peu
nanar.
Ouais.
Tiens, voilà. Ah, ok, d'accord. Mais je note. Mais voilà, Clint Eastwood a fait des nanars aussi.
Oui.
Enfin, je veux dire, le cadre c'est pour Paris, pour moi, c'est pas loin dans
Créance de sang, hein. C'est quelque chose. Hein.
Créance de sang, c'est compliqué aussi. Enfin, voilà, mais.
J'aime un peu Créance de sang.
Moi aussi, c'est un plaisir coupable.
Bref, voilà, allez.
Mais bon.
En fait, on revient aux heures sombres, en fait, de début 2000 aux États-Unis chez John Woo avant qu'il se rebarre à Hong Kong.
Ouais, c'est compliqué.
Bref, c'est gênant. N'y allez pas. Voyez l'original. Voilà, c'est tout.
Totalement, voyez l'original.
Vous pouvez le trouver en streaming. Voilà, allez,
voilà,
je le dis.
Fera,
voilà.
Ça permettra aux gens de voir l'original s'ils le connaissent.
Oui, si vous voulez, voyez l'original parce que par contre, c'est un beau film lyrique, masculin, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que, en fait, c'est une période de Hong Kong. Vous allez comprendre ce que c'est la culture hongkongaise, le cinéma hongkongais.
Ouais.
Et surtout, pour comprendre pourquoi est-ce que ça a tant influencé Hollywood. Vous allez comprendre d'où ça vient. C'est lui qui l'a amené aux États-Unis, quoi. C'est lui et Sawyer, quoi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé?
On n'aurait pas John Wick, on n'aurait pas tout ça sans lui.
Voilà, sans lui, sans Ringo Lam, sans tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est ça. Et c'est triste de voir qu'il arrive à faire moins bien qu'un John Wick maintenant. C'est ça qui
c'est triste.
Voilà, c'est triste.
Voilà.
Mais voilà, si cette merde, appelons-la comme elle est, telle qu'elle est, peut permettre à des gens de découvrir sa film hongkongaise,
allez-y.
Tant mieux.
Ouais, voilà. Allez-y,
à
franchement, une balle dans la tête, The Killer, à toute épreuve.
C'est que du bon.
Syndicat du crime 1 et 2, et sa période américaine, Chasse à l'homme. Volteface, Mission Impossible 2. Voilà.
Ouais, c'est vrai que
Les Trois Royaumes. Voilà.
Voilà. Ouais, moi, The Killer, ça m'a fait relativiser Mission Impossible 2, j'avoue. Franchement, là. Que j'aime pas de base.
C'est pas si mal.
Mais c'est pas si mal quand il pense.
C'est un peu marrant. La scène du tango est vachement bien.
Ouais, et le combat de Kékette à moto entre Tom Cruise et le méchant.
C'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop drôle.
Ouais, voilà. En tout cas, allez voir les assassins de John Woo, ça sera beaucoup mieux. Voilà. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cet épisode de Parlons Ciné. C'est fini pour cette semaine. Je remercie Adam d'avoir été avec moi ce soir pour parler des films à l'affiche à nouveau. Merci Adam.
Je t'en prie.
Merci Adam, cette émission ne serait pas ce qu'elle est sans toi. Tu sais
évidemment.
Bien, en plus, évidemment.
Sans mon aigreur.
Sans ton aigreur. Mais comme toute belle émission de cinéma que l'on est, on va prendre une pause. Voilà,
oui.
On vous le dit, la semaine prochaine, on ne sera pas là. Mais ça ne nous empêchera pas de traiter dans deux semaines les sorties de la semaine prochaine et de la semaine suivante aussi. Donc on parlera notamment.
Un sacré palmarès.
Ce sera un. sera plutôt beau. On parlera de la Palme d'Or, Anora, de Sean Baker, enfin. The Substance de Corey Farja, qui a eu le prix Saint-Lô du coup, mais aussi de Juré numéro 2, le nouveau film de Clint Eastwood qui est un peu balancé
sûrement
par Warner,
son dernier, ouais, qui est balancé à la poubelle,
qui serait son dernier film apparemment, ouais. Cette fois,
donc on a hâte de vous en parler dans le discours.
Voilà, on sera un programme un peu chargé, mais on y arrivera comme toujours, puisque voilà, on est là pour parler de ciné là où nous parlons ciné. Voilà. Salut à tous et à dans deux semaines. Ciao.
Ciao. We'll be right back.